PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue dans le 38e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. Un épisode un peu spécial puisque, comme l'année dernière, on va faire nos takes, nos paris sur la fin de saison. Chacun, on va faire trois petits paris. Alors, on va essayer de faire des choses qui sont probables sans être non plus des coups sûrs. Le but, c'est pas de dire que le PSG va être champion, par exemple. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant et d'un peu, alors pas provocateur, mais un petit peu épicé quand même. On est tous les trois pour cet épisode, mais de manière un peu différente de d'habitude, puisque mes deux collègues, mes deux compères, Florent Tenuti et Raphaël Cosmidis, sont dans la même pièce. Bonjour, messieurs.
Salut.
Salut, Christophe.
Vous êtes les Jacques Legros et Carole Rousseau de cette émission. Vous allez nous en mettre plein les yeux.
Comme d'habitude, la question, qui est qui?
Alors, toi, tu es Jacques Legros.
D'accord, très bien.
Pour tes habitudes alimentaires, et Florent et Carole Rousseau.
Pourquoi? Pour sa réussite dans le quiz des animateurs, le quiz des présentateurs, pour quelle raison?
Je sais pas, c'est le week-end passé en compagnie de Florent qui m'a fait penser à Carole Rousseau. Donc Raphaël Cosmidis, j'ai absolument aucune explication à vous donner, je sens que ce podcast va être très mauvais. Raphaël Cosmidis de l'équipe du Red Star et Florent Tenuti de Chronique Tactique, de rejouer également notre podcast. Soyez sympa, rejouer, que tu as enregistré juste avant ce podcast-ci, c'est bien ça, Florent?
C'est ça, oui, sur Monaco-Real Madrid 2004, une des premières remontades à l'histoire.
Et c'était bien?
C'était pas mal, le match était quand même plus rythmé que France-Brésil 2006, qu'on avait fait au numéro précédent, donc il y avait quand même pas mal de choses à dire, c'était intéressant.
Alors, messieurs, on va faire ça, un pari, alors on en a trois chacun, ça fera neuf en tout. On va commencer par ton premier pari, alors là c'est pas les paris PMU, c'est des paris sans cote, etc. Des petites projections sur la fin de saison. Florent, vas-y, ton premier take.
Bah, je vais partir sur un pari pas trop épicé, parce que j'ai un peu de mal avec les épices. Partir en Italie. Classement des buteurs, l'élection du Capo Cagnoniere, du coup. Et c'est simplement pour dire que Quagliarella, qui est actuellement en tête, avec 21 buts marqués, soit 2 de plus que Zapata et c'est Ronaldo qui est juste derrière. Eh bien, je pense que Quagliarella va aller jusqu'au bout et va être sacré meilleur buteur du championnat d'Italie, en étant dans une équipe qui n'occupe que la 8e place, la Sampdoria. Et alors pourquoi? Déjà parce qu'en termes de XG, il surperforme un peu, mais pas trop non plus. Il est à 17,6 en termes de XG, donc ça reste une surperformance qui n'est pas exceptionnelle, même si elle est assez conséquente. C'est moins qu'un joueur comme Piatek, par exemple, qui a mis 19 buts pour 13 XG, donc quasiment 1,5 but marqué pour 1 XG. Là, on est à 1,25 à peu près. Donc déjà, rien que pour ça, tu peux te dire qu'avec son talent, le fait qu'il tire aussi les pénaux, je crois, à la Samp, il y a moyen qu'il continue. Et ensuite, quand tu regardes le calendrier de la Sampdoria, tu te dis qu'il y a quand même pas mal de matchs où il pourrait mettre un but par-ci, deux buts par-là. Je vois que ce week-end, ils vont jouer le Torino. Certes, ils ont un match compliqué face à la Roma, mais la défense de la Roma, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, c'est pas la défense la plus en forme d'Europe aujourd'hui. Ensuite, ça joue le Genoa, qui n'aura sans doute plus rien à jouer. Bologne qui va se battre pour le maintien. Alors un match compliqué, il y aura peut-être la Lazio et la Juve lors de leur dernière journée, mais la Juve sera championne sans doute. Et avant, ils jouent Empoli qui va descendre, je crois, ou en tout cas qui est pas bien du tout aujourd'hui. Et ils jouent le Chievo qui est lanterne rouge, sachant que j'ai juste oublié un déplacement à Parme entre les deux. Donc voilà, un calendrier assez favorable, je pense, pour un buteur de son talent et qui va lui permettre quand même de mettre une ligne plutôt sympa à son palmarès pour lui qui a traversé une carrière plutôt bonne en Serie A, mais sans non plus taper dans les meilleures équipes, etc.
Tu parlais du fait qu'il tire les pénaltys. Alors, il a marqué 21 buts, dont 6 pénaltys, donc il est premier réalisateur sur cette phase de jeu-là. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, en fait, tu enlèves ses pénaltys, il a que 15 buts, entre guillemets, ce qui est bien, mais ce qui est moins, par exemple, que Zapata, qui en a 18 dans le jeu, Milik, qui en a 16 dans le jeu, Piatek, ouais. 17 dans le jeu. Donc, il profite aussi, alors, à la fois du fait, bien sûr, qu'il les tire. Bon, en plus, il a un très bon pourcentage de réussite. Et je suis assez fan de la manière dont il les frappe, où généralement, il met des bonnes mines et il se contente pas de petits plats du pied, où si tu prends pas le gardien à contre-pied, c'est raté. Là, pour le coup, il les tire vraiment bien. Il les a même tirés, là, en sélection pendant la trêve. Je crois qu'il en met deux, dans le deuxième match de l'Italie. Et en plus, au-delà du fait donc qu'il les tire, il joue aussi à la Sampe, qui est une équipe plutôt offensive et qui du coup se met en position de les obtenir. C'est un peu comme Pepe qui en a marqué énormément avec le LOSC, mais à partir du moment où tu passes pas mal de temps proche de la surface adverse, tu te mets aussi en position d'être fauché dans la surface.
Oui, c'est ça. Il y a de toute façon Quagliarella et Zapata qui est juste derrière lui sont deux joueurs qui sont en fin de circuit de deux équipes qui jouent plutôt bien offensivement avec la balle, etc. Et le fait de les retrouver devant des buteurs sans doute plus talentueux, forcément, puisqu'on parle de Ronaldo ou de Piatek, par exemple, mais qui sont dans des équipes beaucoup moins expansives, qui cherchent moins à jouer, où il faut souvent qu'ils se débrouillent un peu plus tout seuls. Et c'est aussi pour ça que ces joueurs-là peuvent rivaliser avec des mecs qui, normalement, devraient mettre beaucoup plus de buts. Mais Ronaldo, entre la fin de saison de la Juve, où là, ils ont l'air un peu au ralenti depuis l'élimination en Ligue des Champions. Enfin non, ils ne sont pas éliminés encore, mais... Depuis, je sais plus pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Enfin,
bref. Alors, tu peux dire galère au match aller contre l'Atletico.
Oui, voilà.
C'était ça. Puis après, tu peux imaginer que Ronaldo, sur la fin de saison, un peu comme avec le Real, va un peu souffler en championnat comme il avait fait Zidane pour être à fond sur les quarts et les demi de Ligue des Champions.
Donc, bah là, en plus, il est blessé, il est même pas sûr de faire le quart aller. Hein, donc,
oui, Allegri a parlé. Censé revenir pour le retour, mais ça devrait être juste, quoi.
Sans oublier la variable policière.
Raphaël, est-ce que tu as quelque chose de plus footballistique à ajouter sur ça?
Non, mais je regardais pendant que Florent détaillait son take Quagliarella, ses chiffres avancés sur les 5-6 dernières saisons, parce qu'avant ça, on n'avait pas de stats avancées comme les expected goals, et il réalise déjà sa meilleure saison en termes d'expected goals hors penalty. Il est à 12-29, l'année dernière il était à 12-30, mais là il a 300 minutes de moins de jeu. Donc d'ici la fin de saison, il va battre ça, et c'est assez fou de voir que dans une équipe, certes, comme la Sampdoria, mais surtout pour un mec qui va avoir 37, 38. Il me semble qu'il est pas très loin de ça, Quagliarella. Ça doit être un truc comme ça, Christophe.
Je dirais 36 qu'il a.
Ouais, 36.
C'est assez étonnant de voir qu'il arrive quand même à améliorer des choses comme sa capacité à se créer des occasions, alors que la Sampdoria n'est pas forcément meilleure que la saison dernière, si tu regardes collectivement le bilan et l'ensemble du taf de Gianpaolo. Et pourtant, lui, il arrive toujours à se procurer beaucoup d'occasions et à marquer des buts. Je pense que si on fait un best-of des buts de cette saison de Quagliarella, ça vaut déjà le best-of de pas mal d'autres buteurs sur leur carrière. Le gars est quand même spécialiste des buts en première intention, un peu fou. Et Florent parlait de buteurs plus talentueux. Alors, je suis d'accord sur lui, sur le fait qu'il y a surtout des mecs qui sont plus buteurs naturels que lui, mais Quagliarella, en termes de talent, oui. Italien ancien, quand on se dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme talent italien, c'est les buteurs un peu là, Del Piero, Totti, etc. Lui fait peut-être un peu partie de ces derniers Italiens-là. Je ne sais pas s'il y a une génération derrière qui arrive, les Belotti, tout ça, si c'est aussi aussi doué techniquement, par exemple. Lui est vraiment un profil particulier. Après, ouais, quoi. Et rien, c'est vrai que peut-être que son petit raté, c'est de ne pas avoir eu la place à la Juve qu'il méritait ou qu'il aurait mérité quand tu regardes ce qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'il avait fait quand même des belles choses au Napoli à l'époque.
Ouais, en fait, il y a aussi son histoire au Napoli où. Quand il était là-bas, c'était son club de cœur depuis l'enfance, etc. Et il était poursuivi par un harceleur qui faisait courir des rumeurs comme quoi il était pédophile, etc. Enfin, il a eu un peu des galères sur ce plan-là. Il a carrément été obligé de quitter Naples pour ça. Donc il y a aussi tout un truc où sa carrière, bon, de base, il aurait pu briller encore plus avant, après. Enfin, ça conditionne pas tout, mais c'est vrai que un peu son rêve de jeunesse d'arriver dans son club. A pris un sacré coup quand il a eu des problèmes sur le plan personnel en dehors. Mais c'est vrai que là, tu parlais du top but. Je pense que si tu fais le top but en carrière de Quagliarella, à part Giroud, Ibrahimovic sans doute, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui auront la même qualité. Même tu penses, tu peux même faire un top 20 parce que les buts en talonnade, ouais, etc. aérienne, il y a beaucoup de.
Tu vois, il y a des joueurs comme Agüero qui marquent 150 buts par saison, mais par contre, si tu fais le top 15 d'Agüero. Je suis pas sûr qu'il soit aussi étincelant, tu vois. C'est souvent les mêmes buts, des buts où il passe devant au premier poteau devant le défenseur adverse, des buts où il arrive à claquer une tête parce qu'il a une excellente détente, mais il n'y a pas de spontanéité ou d'inconnu et d'invention dans les buts d'Agüero, alors que Quagliarella, vraiment, il met pas les mêmes occasions que les attaquants qui jouent dans les plus grands clubs.
Alors, on enchaîne. Moi, mon premier avis, ce sera Valence terminera dans le top 4, donc Valence en Ligue des Champions. Pour l'instant, Valence est sixième avec 43 points, ex aequo avec le FC Séville devant en confrontation directe, à un point de Alavés qui est cinquième et à 3 points de Getafe qui est quatrième. Bon, après, Barcelone, Atlético, Real, c'est quand même assez loin au-dessus. Alors pourquoi? Déjà parce que forcément, tu dis oui, sixième, mais les deux équipes qui sont devant, à la fois Alavés et Getafe, c'est quand même les grosses surprises, voire sensations à ce niveau-là de la saison. Et autant, enfin, moi je préfère quand même le jeu de Getafe qui me semble alors plutôt réactif, mais je trouve que c'est assez bien fait. À l'Alavés, j'ai plus de mal, ça me semble, j'ai plus l'impression de voir une espèce de Burnley espagnol qu'autre chose. Même s'il y a quelques joueurs sympathiques là-bas, c'est pas toujours génial. Il y a quand même une énorme surperformance. Tu regardes les expected points, ils sont, je sais pas, ils ont l'air d'être 14e là comme ça à vue d'œil. C'est quand même, ça fonctionne quand même sur la capacité à très bien défendre et à marquer ses
Oui,
rares occasions.
ça peut très bien jouer le maintien la saison prochaine comme Burnley le fait cette saison en
Ouais,
Première Ligue
c'est
par
ça.
exemple.
Voilà, c'est ça. Je pense que vraiment c'est un peu la saison où tout sourit. D'ailleurs, ils sont cinquième, mais ils ont une différence de buts négatifs de moins 4, alors que Villarreal, 17e, est à moins 5. Enfin, tu vois, t'as des choses comme ça assez étranges. Et puis en plus, si tu regardes ce week-end, Getafe perd 2-0 à domicile contre Leganés. Et donc Alavés qui pour le coup avait donc une très bonne défense a pris 4-0 à domicile contre l'Atlético. L'Atlético qui a un réalisme absolu sur ce match-là. N'empêche que c'est peut-être la première fois où l'Atlético marque autant et la première fois qu'Alavés encaisse autant. Donc du coup tu peux avoir aussi ce côté dynamique en sortie de trêve internationale où bah finalement t'as un peu un retour à la normale et que ces deux équipes-là qui vont un peu moins bien performer où le côté tout réussi va un petit peu diminuer et à l'inverse Valence qui avait très très mal commencé. Alors dans le jeu pourtant c'était finalement à peu près comme maintenant sauf que à la fois tu avais des blessures, Guedes était pas là, Rodrigo était pas du tout dans son assiette et depuis que l'équipe c'est redevenu l'équipe type avec à peu près tout le monde à disposition que t'es pas obligé avec de bricoler avec du Vas latéral puis milieu puis ailier d'une semaine sur l'autre. Valence se remet à ne plus perdre. Je crois que c'est 14 ou 15 matchs sans défaite, j'ai pas vérifié mais en tout cas c'est un truc assez énorme. Alors il y a beaucoup de nuls dans le lot. N'empêche que Valence, qui n'a perdu que 4 matchs, maintenant a tendance à plus gagner 1-0 que faire 0-0. On l'a encore vu là ce week-end face à Séville où ça gagne 1-0 alors que fin de match, Séville pousse, peut avoir un penalty, etc. Donc c'était assez limite. Et vraiment, tu as la dynamique. Alors tu peux avoir la Ligue Europa qui prend un peu d'énergie. Mais finalement, déjà, moi, je suis assez client de cette équipe-là qui est cohérente, mais dans le bon sens du terme. C'est pas juste du mauvais pragmatisme. Il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant offensivement. Et globalement, ça a plus de talent que les deux équipes devant. Donc le plus gros rival, presque, ça serait Séville. Mais je suis totalement contre le changement d'entraîneur à Séville. Et je suis assez peu client de ce qui est en train de se passer. Avec Amadou et Gonalon en double pivot, Banega sur le côté, etc. Donc du coup, il y a aussi un petit côté cœur qui fait qu'à choisir, si un des deux gros, enfin semi-gros, doit passer devant Getafe à la veste, je préfère que ça soit Valence plutôt que Séville.
Ouais, sachant que Valence n'avait pas été ridicule contre Manchester et la Juve cette saison en Ligue des Champions. Donc ça les a peut-être d'ailleurs un peu mis en difficulté en début de saison, mais ils auraient très bien pu sortir de ce groupe s'il n'y avait pas eu des coups de chance pour Mourinho, notamment la victoire à Turin.
Ouais, et puis bah, c'était aussi la période où Valence, pour le coup, était. Enfin, faisait à peu près le même contenu que maintenant, mais où ça tournait pas. C'était un peu le reflet de ce qui se passait aussi en championnat. À savoir que tu faisais des 0-0, des défaites 1-0, au lieu de gagner 1-0, parce que malgré tout, c'est une équipe qui joue sur des volumes de buts assez faibles.
Oui, c'est une équipe qui a pendant pas mal de temps été incapable de marquer un but en fait. Quand tu regardes leurs expected goals sur la saison, ils ont mis 31 buts, ils sont à 46 XG. Donc là, on peut se dire qu'il y a eu une mauvaise forme des attaquants pendant une bonne partie de la saison, et puis que c'est quelque chose qui s'est mis à tourner dans le bon sens par la suite. Et c'est un petit peu l'opposé. Tu parlais de Séville tout à l'heure qui a viré Machin. Séville a viré Machin la première période où ils ont commencé un petit peu à chuter en termes d'expected goals, mais au final, le fond de jeu de l'équipe, la moyenne, etc. C'est plus la réussite qui les fuyait, tu peux te dire que ça aurait pu revenir. Et Valence aurait pu prendre la même décision avec Marcelino en tout début de saison. Ils ont décidé de continuer d'insister avec lui. Et au final, aujourd'hui, ils en récupèrent le prix, quoi. Ils en récupèrent les fruits, même plutôt. Et c'est vrai que quand tu vois qu'une attaque, Rodrigo Gamero, Ils sont à eux deux, ils sont à 9 buts marqués, alors que normalement ils sont à 18 XG, du simple au double. Tu peux dire qu'en plus, c'est une équipe qui a une petite marge encore aujourd'hui pour bien finir la saison. Et après, quand tu regardes leur calendrier, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir aller chercher leur qualif face à des adversaires directs. Là, tu parlais de leur victoire face à Séville. Ils vont affronter le Real la semaine prochaine. Enfin non, c'est même dès mercredi, là.
Ouais, c'est après-demain, là, pour le moment où on enregistre.
Ça arrive assez vite. Et ensuite, ils vont avoir le Betis, qui est pas loin derrière, l'Atlético, et Alavés à l'avant-dernière journée. Donc, ils auront aussi des confrontations directes pour aller chercher cette quatrième place. Mais c'est vrai que sur le plan de la dynamique, quand tu vois les équipes devant, les équipes derrière, aujourd'hui, c'est l'équipe qui semble la plus à même d'aller chercher cette place. Un peu comme... peut-être, là aussi c'est un peu le cœur qui parle, mais l'Atalanta en Italie, même si pour eux le calendrier est plus compliqué.
D'ailleurs c'est marrant Flo que tu parles des dirigeants qui ont décidé de garder l'entraîneur malgré la série apparemment mauvaise, parce que tu peux avoir l'inverse aussi, genre Huddersfield la saison passée qui se maintient, là qui a viré son coach cette saison, qui est déjà descendu avec le nouveau, un Allemand aussi d'ailleurs je crois. Et la saison dernière, quand tu regardes leurs chiffres avancés, en fait, ils auraient déjà dû descendre. Ils étaient à 36 ouais. points, ils étaient 18e en termes d'expected points. Ils ont surperformé d'un point, et comme le maintien s'est joué à très peu, ils ont réussi à se maintenir avec 37 points. Mais quand tu regardes la performance offensive la saison passée en termes avancés et les chiffres qu'ils auraient dû avoir, tu pouvais déjà savoir qu'il y avait un problème. Et peut-être que le fait, il y a beaucoup dans ce moment d'interviews du mec des Midtjylland qui ressort, qui dit oui, le tableau, le classement ment tout le temps, c'est le plus gros menteur, etc. Sur une saison, c'est un échantillon très faible et la part de chance, malchance joue beaucoup. Là, sur Huddersfield, elle a joué. Ils n'ont pas renforcé l'effectif du tout. Je ne sais même pas s'ils ont fait une recrue cet été. Je crois que c'était un peu avec Tottenham, les deux équipes qui n'avaient pas recruté. Et tu découvres en fait que la saison dernière, tu avais juste eu un petit coup de chance et que tu le payes derrière parce que tu as pensé que ce que tu avais récolté était le fruit de ton travail. En fait, non, c'était le fruit aussi de pas mal de circonstances favorables. Et cette année, ça a été une catastrophe. Huddersfield, je ne sais plus quels sont leurs chiffres, mais je crois qu'en attaque, ils sont dans une galère absolue. Alors, je sors un peu du sujet, mais ils ont marqué 18 buts en 32 matchs. Compliqué de se maintenir et ils en ont cassé 59, donc il n'y a aucun des deux côtés qui était positif.
Mais c'est vrai que si, alors c'est pas le sujet, mais entre Dijon, bon, Guingamp c'est un peu particulier parce que c'est remonté, mais je ne suis pas sûr que la moyenne de points soit bien meilleure. Mais Fulham, même si pareil, là, le premier licenciement, la situation est assez désespérée. Villarreal qui vire son coach finalement, qui le reprend un peu après parce que le remplaçant ça ne fonctionne pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que cette saison, le fait de changer d'entraîneur, il n'y a pas forcément eu beaucoup de chocs psychologiques en Europe.
Et même Solskjaer, en fait, quand tu regardes les chiffres avancés, peut-être que l'an prochain, il y aura une petite chute par rapport à ce qu'a réalisé cette saison.
Après, là, c'est plus de saison aussi, déjà. Là, je pense que c'est vraiment pour le coup le choc psychologique plus que dans le jeu, même si tu as une évolution dans le jeu. Disons, le fond de jeu n'est pas nettement augmenté. Et pour le coup, moi, je suis convaincu. Alors, on s'éloigne complètement du sujet.
C'est ce que disait Van Gaal aussi. Il disait que Solskjaer, c'était comme Mourinho, mais sauf que maintenant, il marquait des buts.
Mais moi, je suis vraiment convaincu. Enfin, j'ai peur pour Manchester que, à la fois, la possible qualification pour la Ligue des Champions l'an prochain et le fait d'avoir éliminé le PSG, qui du coup t'oblige quasiment à garder Solskjaer parce que ça ne serait pas logique quand tu as une telle amélioration des résultats de ne pas l'embaucher. Je pense vraiment que c'est indirectement un problème parce que je pense que sur le long terme ça risque de se cracher parce que je pense pas que ce qu'ils mettent en place dans le jeu encore ce week-end contre Watford c'était compliqué, ça soit forcément la bonne direction à prendre pour Manchester, donc on verra. Mais les chiffres généralement, alors c'est généralement hein, c'est pas tout le temps, mais finissent par revenir à la normale. Donc là, pour boucler la boucle, on a vu avec Valence qui en plus a fait une addition par soustraction puisqu'en virant Michy ça a réglé un petit peu le problème de l'attaque parce que du coup bah t'avais plus que 3 joueurs avec Rodrigo, Gamero, Mina pour 2 postes au lieu d'en avoir 4. Du coup bon, t'étais un peu obligé de rester sur une association qui a fini par marcher et parfois ça finit par revenir à la normale. Il faut faire confiance au travail d'un entraîneur. Hop, Raphaël, vas-y, je te laisse, t'en as 3, je te laisse choisir celui que tu veux.
Est-ce que tu préfères que je reste en Angleterre ou que je parte en Ligue 1? On a parlé un peu d'Angleterre juste avant.
Bon, reste en Angleterre si tu veux.
Ok, bah, je vais rester en Angleterre, comme ça je laisserai Flo enchaîner sur la même équipe, mais moi ce sera sur un joueur en particulier qui a été très bon encore contre Tottenham ce week-end, c'est Van Dijk. Donc il sauve un 2 contre 1 où il choisit la moins mauvaise option, et apparemment c'est dur à comprendre pour pas mal de gens. Il a plutôt bien défendu en 2 contre 1. Bref, c'était plus par rapport à une stat que j'avais déjà évoquée cette saison, notamment sur Twitter, sur le fait qu'il n'a toujours pas été dribblé en Première Ligue. C'était le cas il y a quelques mois, je crois qu'il était à 20 tacles tentés, 20 tacles réussis. Bah là, j'ai vérifié, il est à 33 sur 33. C'est-à-dire qu'il n'a pas été éliminé une seule fois par un dribble. Alors des gens m'ont répondu qu'il avait fait faute, je crois, sur un penalty sur Sané
Ouais, c'est ça.
En le match aller contre City, mais il n'est pas éliminé, il fait faute alors qu'en fait il ferme l'axe du but et pour l'instant, c'est une erreur, mais il s'est pas fait éliminer.
Et le tir raté par Mahrez après, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, mon take, ce sera qu'il ne sera pas dribblé d'ici la fin de la saison. J'ai regardé le calendrier de Liverpool, j'ai réfléchi par rapport aux oppositions, aux joueurs qu'il va rencontrer sur son chemin. Alors il y en a un qui me fait peur, c'est Hazard. Parce que Hazard, s'il vient du côté gauche un peu, qu'il vient intérieur, que Trent Alexander-Arnold n'est pas là, que latéral droit n'est pas là et qu'il arrive contre Van Dijk, il peut le dribbler. Après, le reste du calendrier, il y a Southampton. Je vois pas un joueur qui va mettre en difficulté par le dribble Van Dijk à Southampton. Cardiff, bon, je pense que tout le monde a vu jouer Cardiff. C'est peut-être l'équipe qui dribble le moins en Europe. Enfin, j'ai vu, c'est une stat catastrophique l'autre jour. Huddersfield non plus, Newcastle non plus. Et Wolverhampton, peut-être qu'un Adama Traoré lancé peut l'embêter. Donc voilà, il y a une menace évidente, c'est Hazard. Si Van Dijk n'est pas protégé par l'intérieur droit ou le relayeur droit qui ne ferme pas l'intérieur à Hazard, mais voilà, je pense que ça pourrait être une des saisons réalisées sans se faire dribbler. Il faudrait voir avec Opta, avec les gens qu'on connaît dans le milieu des stats, si ça a déjà été réalisé. Mais c'est assez impressionnant. C'est aussi parce qu'il se jette rarement quand il défend, et qu'il est plutôt intelligent là-dessus. Mais c'est une stat hyper intéressante, je trouve. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait autant. Et de le voir encore en course après 32 journées, je trouve ça complètement dingue, et c'est à la hauteur de sa saison quand tu regardes encore sa performance dimanche.
Raph, je vais peut-être te poser une colle, mais je pense que les gens qui nous écoutent vont forcément se demander quel est le volume moyen pour un défenseur, parce que forcément tu te fais moins souvent éliminer quand t'es juste devant ton but et que tu sors pas forcément de ta position que si t'es milieu offensif. Hein, voilà. Est-ce qu'on a des points de comparaison un peu sur le nombre de fois, je sais pas, où un Thiago Silva ou un Godin peuvent se faire dribbler?
Bah écoute, un Thiago Silva ou un Godin, je sais pas. Là, je suis en train de regarder Arsenal, parce que du coup, je me dis des défenseurs qui se font dribbler, il doit y en avoir à Arsenal. Je suis en train de regarder ça et je vais te dire ça tout de suite. Combien de fois s'est fait dribbler, par exemple, un Laurent Koscielny, qui a joué que 959 minutes, il s'est fait dribbler 3 fois, par exemple. Moustafi, c'est 8 fois cette saison, qui est d'autre comme défenseur. Socratis, 9 fois. Donc pour ça, c'est dans une équipe qui défend pas forcément bien. Après, si on va dans une équipe comme le PSG qui domine son championnat, qui a un Thiago Silva très fort, je vais regarder ça tout de suite, je pense que ce sera un peu moins, mais c'est vrai que 0 fois, il faudrait qu'on regarde dans les saisons précédentes, mais peut-être un Varane, parce qu'il va très vite. Attends, je regarde ça sur le total du PSG. Donc si on regarde par exemple Kerrer, bon, il a joué latéral droit, donc c'est compliqué, Marquinhos, il a joué au milieu. Kimpembe, c'est 13 fois cette saison. Thiago Silva, c'est 5 fois, par exemple. C'est 5 fois sur l'ensemble de la saison en 1973 minutes en Ligue 1. Donc,
sur combien de dribbles sur combien de tacles?
21. Donc tu vois, Van Dijk en a fait 33 sur 33. Mmh. Thiago Silva est à 16 sur 21. Donc voilà, pour un petit point de comparaison. Sachant que le match contre Tottenham, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais ça allait quand même assez vite d'un côté à l'autre à un moment du match. Et c'est là-dessus que Van Dijk est assez impressionnant. C'est sur même ses situations de crise, il arrive à ne pas se faire éliminer. Il a un corps gigantesque qui aide aussi. Parfois, il y a des espèces de frappes qui partent 5 mètres devant lui, super hautes. Et il est tellement grand qu'il la dévie de la tête immédiatement. Tu ne comprends pas comment il fait. Mais en tout cas, voilà, Thiago Silva, qui est peut-être un joueur sur lequel on peut le comparer en termes de couverture du terrain, il s'est fait dribbler 5 fois cette saison. Donc voilà, si tu voulais un petit topo, je t'en ai donné un petit.
Et du coup, ouais, je regardais pour Godin, sur 51 tacles, il s'est fait dribbler 12 fois.
Ce qui me paraît énorme pour l'Atletico.
Ouais, 51 tacles, ça veut dire qu'il a été pas mal exposé quand même.
Ouais, ce qui explique peut-être ses difficultés récemment, plus que les saisons précédentes. Mais voilà, c'est pour ça que le 0 tacle, 0 fois éliminé et 33 tacles réussis, c'est insensé.
Raphaël, on en est où sur Van Dijk, meilleur défenseur central du monde? Oui, non?
Bah, quelle est la concurrence cette saison? J'ai l'impression que c'est pas une très belle année pour les défenseurs centraux en Europe. Thiago Silva a été très bon.
Piqué cette saison,
est pas mal. Piqué pas mal. L'anglais pas mal. Après, est-ce que c'est au niveau de Van Dijk défensivement? Est-ce que c'est... Tu vois, c'est surtout défensivement, parce qu'avec le ballon, il n'exploite pas toutes les qualités qu'il a, parce que Liverpool ne demande pas énormément de ce côté-là, mais défensivement, il réalise une saison assez inouïe. Je pense que ouais, sur cette saison, sur la performance, c'est top 1, sur le niveau intrinsèque et le potentiel maximum, je ne sais pas si c'est encore top 1. Après, quand tu vois que Ramos, ça décline un peu, que Varane et Umtiti font une saison quand même très moyenne après leur Coupe du Monde.
Moi, l'interrogation, c'est Koulibaly, mais le problème, c'est la fois Albiol, Naples, tout ça, il y a des inconnus qui font que tu peux dire finalement il est dans un club de second rang. Si on prend le fait que le premier rang, c'est les 6-8 premiers clubs, c'est un petit peu plus difficile d'évaluer parce qu'ils ne jouent pas les mêmes matchs.
Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être tous les deux les meilleures performances individuelles au poste de défenseur central cette saison, et Piqué sur certains matchs. Flo, t'en parlais. C'est ces trois-là cette saison.
Piqué depuis 4 mois.
Ouais.
Donc, bah tiens, je vais regarder Koulibaly pendant qu'on débat de ça, parce que c'est intéressant. Mais c'est quand même deux mecs qui défendent différemment. Koulibaly va un peu plus au sol, j'ai l'impression. Alors, Koulibaly s'est fait dribbler. Ah, il a l'air pas trop mal dribblé. Koulibaly s'est fait dribbler 11 fois cette saison, quand même, sur 56 tacles tentés. Donc, ouais, ils défendent vraiment différemment. Koulibaly, c'est plus dans l'impact, dans je vais aller au sol, je vais prendre des risques, alors que Van Dijk est plus dans le contrôle et la patience, quitte à reculer un peu plus loin, c'est jusqu'à son but.
Florent, ton deuxième take, vas-y. Je pense que du coup, ça sera sur Liverpool.
Ouais, on va rester sur Liverpool, d'autant que Van Dijk sera un argument aussi pour appuyer ce take. C'est simplement le fait que Liverpool va aller chercher la Ligue des Champions cette saison.
Là, je regardais sur les projections de l'excellent site 538, qui fait des projections sur énormément de choses. Ça va de la politique, mais jusqu'au sport, le basket, la NFL, etc. Et sur leur projection de Ligue des Champions, ils donnent Liverpool à 23% de chance de remporter la finale. En troisième position, derrière le Barça qui a 24% et Manchester City qui a 35%. Alors, pourquoi Liverpool ? Pour deux raisons, en gros. L'efficacité de leur attaque, tout simplement. En Ligue des Champions, ils ont des mecs qui ont déjà montré qu'ils étaient capables d'être décisifs, avec en plus cette saison le mec qui croquait l'année dernière, c'est lui qui est le plus décisif avec Sadio Mané. Le retour de Firmino aussi, qui revient au bon moment après sa blessure et qui va peut-être avoir aussi la fraîcheur qui manquera peut-être à d'autres sur la fin de saison. Et ensuite derrière, évidemment, Van Dijk, Alisson qui s'ajoute, même s'il peut craquer de temps en temps, hein, n'est-ce pas Raphaël? Mais c'est vrai que quand tu vois la finale de Ligue des Champions l'année dernière, en fait, et tu dis Liverpool perd cette finale, pourquoi? Parce que Karius,
Salah, pas de banc
et Salah blessé.
Il y a deux choses qui ont changé cette saison. Salah est moins fort que la saison dernière, mais au moins il va arriver. Et s'il n'y a pas Ramos, il ne sera pas démettre l'épaule. Donc,
C'est ça. Et du coup, en prenant tous ces arguments-là, et en ajoutant le fait que Liverpool, sur le quart de finale, va affronter Porto, qui reste à sa portée, on se rappelle, c'était en huitième l'année dernière,
il me semble. Ils avaient mis un score, l'an dernier.
Ouais, il avait mis un gros score. Et en demi-finale, ça croisera la Juve ou l'Ajax? Ou c'est Barcelone?
Non, c'est Barcelone ou Manchester.
Mais ça revient au même, parce que c'est vrai que Liverpool, sur les séquences de transition face au Barça, je me dis qu'ils peuvent faire assez mal. Aux Catalans, d'autant plus s'ils vont presser comme ils étaient allés presser City par exemple. Je pense qu'un Van Dijk peut mettre un joueur comme Suarez dans sa poche. Après, évidemment, il y aura le facteur Messi qui reste quelqu'un qui peut éclater n'importe quel algorithme et système de probabilité. Mais je me dis que Liverpool peut faire mieux, puisque au final, ils ont amélioré, comme le disait Raphaël, les secteurs où ils avaient été défaillants et sur lesquels ils avaient fauté en fait en finale la saison dernière.
Et individuellement, tu penses que... Parce que l'impression qu'on a, bon après il y a aussi les blessures, etc., notamment au final, mais l'impression que j'ai, c'est qu'individuellement, le Real, à son pic, si tout le monde était au maximum, était plus fort que Liverpool sur la finale. Tu penses que là, intrinsèquement, au-delà des aspects tactiques ou autres, les individualités de Liverpool ont le niveau pour lutter avec tout le monde ou pas? Parce que par exemple, si tu vois la saison de Salah actuellement, on peut dire qu'il y a, enfin Raphaël me contredira peut-être, mais trois bons, voire très bons mois, et sinon tout le reste, c'est incertain par exemple.
Il n'est pas aussi fou que la saison dernière en termes de réussite, mais au final, il est dans sa moyenne de conversion en termes d'expected goals par rapport au but marqué. Pareil en termes de création, je crois. On est à peu près dans les mêmes eaux.
Il semble avoir perdu un peu en vivacité, je trouve, quand tu le vois jouer sur les 2-3 premiers mètres, même sur l'accélération sur 15-17 mètres. Il passe plus autant devant que les saisons dernières. Je me demande s'il n'y avait pas ce problème de musculation qu'on a déjà évoqué lors d'un podcast précédent. Mais voilà, c'est peut-être la différence. Et aussi, ça, il y a moins de buts où la finition était compliquée que la saison dernière, où il mettait parfois des enroulés lucarnes un peu à la Robben. Là, il y en a un peu moins cette saison.
Après, de l'autre côté, Mané a haussé son niveau aussi par rapport à l'an dernier. Il prend un peu ce qu'a perdu Salah, c'est Mané qui l'a récupéré en termes de finition et même de production. Donc après, se poserait la question du milieu de terrain. Mais c'est vrai que, bon, au-delà du cas de Porto, qu'il faudra passer en étant dominateur, en étant favori, s'ils prennent le Barça en demi-finale, ils n'auront pas forcément le ballon. Du coup, le manque de créativité au milieu de terrain ne sera pas forcément un problème.
Ouais, sachant qu'ils vont récupérer Oxlade-Chamberlain, qui avait été très bon en Ligue des Champions la saison dernière, qu'il a un an à souffler, et puis Fabinho qui sort du banc, là, qui est sorti du banc contre Tottenham et qui a été énorme sur 15 minutes. Donc, c'est deux options qui n'étaient pas dispo en demi-finale l'an dernier, parce que Oxlade s'était blessé et Fabinho n'était pas là.
Après, restera la question de la possible finale face à City. Parce que autant la saison dernière, Liverpool avait le dessus dans les confrontations individuelles. Même s'ils avaient perdu le premier match, là, ils avaient pris une volée parce que Mané s'était fait expulser. Parce qu'avant, Liverpool dominait, je crois, le début de match. Là, cette année, Guardiola a l'air d'avoir inversé un petit peu le momentum dans les confrontations directes. Mais je me dis que sur un match, sur une finale que Liverpool a déjà connue, après, chose que n'a pas connu City.
Il n'y aura pas Anfield là où Liverpool a fait ses victoires contre City aussi. C'est peut-être une petite différence.
J'ai rien d'autre à
rajouter. Raphaël, toi t'es plutôt confiant pour Liverpool ou pas? Genre par exemple titre de champion, tu verras que ça fera la transition. Ou Ligue des champions ou aucun des deux, ou les deux.
Je pense qu'il y a plus de chances pour le titre. Parce que City a encore 4 compétitions à jouer et que là il y a un enchaînement assez fou. Ils ont 12 matchs en... Il me semble qu'ils ont 12 matchs en 35 ou 40 jours là, avec les matchs. Alors, c'est pas tous contre des gros adversaires, mais par exemple, l'enchaînement Tottenham en Ligue des Champions, Tottenham en championnat peut faire mal. Et derrière, je crois qu'ils ont un match contre Manchester United là-bas qui peut les embêter. Donc, je pense qu'il y a plus de chances pour le titre, parce que malgré ce qu'a dit Florent, et c'est vrai que la transition de Liverpool est toujours assassine, mais le Barça de cette saison, quand Messi a envie de jouer et de faire des différences, tu peux plus contrôler. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, mais... Mais Messi, quand il décide de gagner un match, ou quand il décide de le jouer déjà, parce qu'il y a des matchs où parfois il est un peu moins dedans, ça me paraît compliqué, ça, et le fait que la défense centrale du Barça ne soit plus aussi fragile, fébrile que la saison dernière, parce que Piqué est de retour, parce que l'Anglais met la pression sur Umtiti, et pour ces raisons-là, je pense quand même que le passer l'obstacle Barça va être immensément compliqué.
Bah bon, mon deuxième pari sera un peu épicé, sera dans cette veine-là, c'est que City va gagner tous ses matchs restants en Première Ligue. Donc City sera champion, il en reste 7. Je vais les dérouler. Cardiff, là mercredi, donc dans 2 jours pour nous à l'heure d'enregistrement. Crystal Palace, donc ceux deux-là largement favoris.
Attention, à Crystal attention Palace, c'est dur. Hein,
Non, mais j'ai largement favori. Je sais qu'il y a eu le penalty raté l'année dernière seconde qui aurait pu les rendre leur perdre leur invincibilité à l'époque.
Dans le documentaire d'Amazon qu'on a tous vu, du City évoquait bien Crystal Palace comme une des équipes qui défendait le mieux en première ligue.
Oui, mais je veux dire, t'es largement favori, mais c'est vrai que c'est peut-être le plus gros piège du lot, quoi. Mais j'y serais revenu. Tottenham, Manchester, donc les deux priori gros morceaux de suite. Et ensuite, Burnley, Leicester et Brighton pour finir.
Oui, non, les trois derniers, ça fait victoire normale.
A priori, là-dessus, il n'y a pas de souci, même si Burnley peut être chiant, je pense que cette année, c'est pas. Enfin, on sait que c'est pas le Burnley de l'an dernier, mais même défensivement, il y a beaucoup plus de largesse. Donc, limite pour moi, les plus compliqués. Alors, c'est l'enchaînement. Bon, comme tu l'as dit, l'enchaînement avec Tottenham. Mais moi, je vois plus le fait que ça puisse être pénalisé en Ligue des Champions qu'en championnat. Tottenham me semble pas forcément le type d'équipe. Capable de sortir City de sa zone de confort si City marque le premier but. Je me réfère notamment au match aller qui était disputé sur une pelouse assez compliquée, mais où une fois que le premier but avait été marqué très rapidement, City avait réussi à endormir le match, et c'est une grosse caractéristique, je trouve, de City par rapport à la saison dernière. C'est vraiment, alors sans forcément faire la possession défensive type Barcelone, mais en faisant tourner derrière, etc. Enfin, tu peux toujours avoir le risque, une fois que t'en prends un, d'enchaîner, que l'adversaire enchaîne et d'en prendre un deuxième, en tout cas d'être sous pression pendant un certain moment, parce que comme toutes les équipes de possession, quand t'as un petit peu moins de confiance et que l'adversaire vient te chercher, bah, tu peux faire des erreurs techniques. N'empêche que la maturité qu'on a vu aussi sur le retour City-Liverpool de cette équipe-là qui arrive à être parfois un peu plus moche, en tout cas moins emballante, même là ce week-end, j'ai regardé le match contre Fulham, alors il y a rapidement 2-0, Fulham est assez grotesque pendant une demi-heure. Florent, on a regardé le match chez moi. Je pense que on était d'accord pour vous dire que c'était l'une des pires équipes qu'on ait vues dans les 5 grands championnats en première division. Ouais. Sur l'histoire récente, c'était assez catastrophique. Mais une fois ce 2-0 acquis, Manchester a arrêté de jouer, a juste fait tourner en attaquant quasiment plus. Et du coup, je pense que cette gestion d'énergie, conjuguée au fait que finalement il n'y ait pas tellement d'absents, hormis Mendy, mais qui est tout le temps blessé, mais je veux dire, il n'y a pas de grosses menaces. Il y avait Fernandinho qui est quasiment le seul récupérateur hormis Gundogan, mais Fernandinho est sur le retour là. Donc je pense que l'effectif est suffisamment solide pour que tu puisses jouer sur tous les tableaux, pas que tu gagnes sur tous les tableaux, mais qu'au moins tu puisses aligner une équipe avec des joueurs à 100% match après match. Et si tu rajoutes le fait que bah, tu sois quasiment condamné à faire un sans faute pour être champion, parce que tu peux dire que, vu la manière dont Liverpool arrive à sauter la plupart des obstacles, avec parfois des buts à la dernière seconde, notamment là face à Tottenham ce week-end, je pense que City va se mettre dans l'idée qu'il n'y a absolument aucun joker possible, et que même si tu es à l'abri de rien, la marge intrinsèque que tu as à la fois sur le talent individuel et dans ta capacité de plus en plus à bien aborder tous les types de confrontations, que ce soit face à des petits, des gros, des moyens, fait que je pense que la série peut continuer. D'ailleurs, si tu regardes la série de victoires, ok, 7 victoires en championnat, ça paraît énorme, mais là, depuis le 26 décembre, toute compétition confondue, t'as que des victoires à part une défaite face à Newcastle. Donc, ça serait pas, statistiquement, ça serait pas forcément illogique qu'une telle série de victoires se poursuive.
Écoute Christophe, merci. C'était, mais je n'avais pas réalisé qu'ils avaient fait une telle série en fait. Mais c'est depuis leur connerie en décembre où ils perdent contre Crystal Palace et contre
Leicester à la suite.
Voilà. Depuis ce match-là, t'as l'impression qu'ils sont imbougeables et invincibles. Et c'est vrai que l'enchaînement et les stats offensifs qu'ils produisent depuis ces matchs-là sont assez folles.
Ouais, bah 11 victoires en 12 matchs de Première Ligue. Avec Arsenal dans l'eau, Liverpool, et genre même contre Arsenal qui était une menace, t'avais quand même une certaine marge où tu peux dire que bien sûr Tottenham, Manchester, ça peut être embêtant, mais la manière dont t'as battu Arsenal, dont t'as battu Everton, dont t'as mis 6-0 à Chelsea, fait que tu peux aborder en confiance les rencontres suivantes. Rien à rajouter, j'imagine.
Là, non, c'est brillant.
Endormi par mon monologue, donc vas-y Raphaël.
Oui, on va retourner en Ligue 1. Bon, on va aller en Ligue 1, mais je crois pas qu'on en fera encore fait de take en Ligue 1. T'en auras peut-être un après, Florent, sur la Ligue 1. Le mien est assez, disons, médiatique, puisque c'est quand même un des derniers défis de cette Ligue 1, en tout cas pour le PSG. C'est la capacité de Mbappé à battre le record d'Ibrahimovic de buts avec le PSG. Je crois que c'était 36, Ibrahimovic.
36 ou 37,
si je ne m'abuse. 36, faudrait bien, je suis 36.
C'est-à-dire
ou 37.
Que tu penses qu'il va battre un record, mais tu ne sais même pas quel.
Oui, mais non, mais
j'étais
sûr que ce soit 36 avant que Florent me fasse douter.
Après, il faut peut-être qu'il en mette 37.
Sur le record de buts en Ligue 1, mais il me semble que c'était 36 pour Ibrahimovic sur une saison. Ah, voilà. Alors, non, c'était 38. C'était 38 pour Ibrahimovic. Bon voilà, bon, mon take ce sera quand même le même, il va devenir un peu plus épicé parce que du coup ça va être plus dur. Je pensais que c'était 36, ce sera 38. Mais c'est que Mbappé ouais, ce qui est n'importe quoi. Mais là donc Mbappé est à 27 en 24 matchs, et surtout depuis que Cavani, Neymar, tout ça se sont blessés et jouent moins, il a des stats offensives dingues. C'est-à-dire que contre Toulouse il marque un but alors qu'il a que 0,7 et petit goals, mais sur les matchs précédents contre Marseille il est à 0,88, contre Dijon il est à 1,62, contre Caen il est à 1,89, contre Nîmes il est à 3,24, pardon, contre Montpellier il est à 1,61. Voilà, il a enchaîné des performances où il a croqué d'ailleurs sur certains matchs, d'autres où il a été en efficacité assez folle, notamment contre Toulouse où il marque un but dans une position compliquée. Mais je le vois bien, vu que maintenant pas mal de choses reposent sur lui et qu'il va jouer la plupart des matchs, battre le record d'Ibra. Alors il faudrait mettre, du coup, c'est plus compliqué que ce que je pensais, il faudrait mettre 12 buts en 9 matchs. Je pense ouais, 9 matchs au PSG. Ça. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas infaisable, puisque sur les 1, 2, 3, sur les 5 derniers matchs, il est à 7 buts.
Et sur les 12 derniers matchs ouais, de sa part, 12 dernières apparitions, il est à 14 buts.
Ouais, donc c'est jouable. Alors le calendrier du PSG va-t-il l'aider? Match contre Strasbourg, c'est pas forcément une équipe qui défend mal, donc ça peut être compliqué. Contre Lille, bon voilà, Monaco, ça peut marquer. Et puis après, t'as Montpellier, Nice, Angers, Dijon, Reims, où là sur les 5 derniers matchs, tu peux enchaîner des buts, même si ce match contre Reims sera pas facile, surtout que c'est à Reims et Flo en parlera après. Mais c'est un take un peu plus épicé que ce que je pensais, parce que je pensais que c'était 36, finalement c'est 38. C'est que Mbappé battra le record de buts marqués par Ibra. Déjà, s'il s'en approche, c'est pas mal. S'il le bat, ce sera sans doute dû un peu au désert autour de lui, où là, c'est sur les derniers matchs, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui crée les occasions, c'est lui qui les marque. Parce que quand c'est pas lui au bout, là, c'est souvent Choupo-Moting, et on a vu contre Toulouse que c'est pas forcément facile pour lui de finir, même si c'est pas le pied carré que certains pensent.
Du coup, Raphaël, Mbappé numéro 9 définitivement, c'est ton, je vais dire ton grand combat, mais c'est...
Pas définitivement, mais disons que le dénouement, ce sera qu'il jouera numéro 9. Après, tu peux très bien le remettre sur les côtés d'ici à ce qu'il perde un peu en vitesse sur 15-20 mètres, mais je pense que ce sera son poste final. Peut-être pas un 9 comme on les comprend habituellement, pas très mobile, qui occupe des défenseurs centraux. mais en 9, combien il y en a d'autres avant? Alors après, je vais le comparer à des Brésiliens, ils vont me dire, ouais, les Brésiliens étaient plus techniques, etc. Oui, d'accord. Mais dans le style de jeu, il y a des similarités avec des Romario, avec des Ronaldo de l'époque, qui étaient des 9, qui bougeaient beaucoup, qui pouvaient partir de loin, qui pouvaient enchaîner vite dans la surface, qui pouvaient éliminer sur un dribble, même si la panoplie de dribble de Mbappé est moins large que celle de ces Brésiliens-là, mais c'est le même genre de 9.
Florent, si Mbappé... Déjà, est-ce que tu souscris à cette théorie du Mbappé 9? Et si tu dois construire l'effectif du PSG de la saison prochaine, tu fais comment, sachant que autant tu peux mettre Mbappé sur le côté, autant Cavani sur le côté en 2019-2020, ça serait très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais là si je te mets à la place d'Antero Henrique? Qui est-ce que tu recrutes et comment est-ce que tu articules ton équipe la saison prochaine?
C'est difficile à dire là comme ça.
Est-ce que tu vends Cavani?
Pardon?
Est-ce que tu vends
oui,
Cavani?
Oui, c'est la seule question qui se pose à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce qu'un joueur comme Cavani peut aussi faire une saison de plus où il a pas forcément une importance de titulaire, mais il se retrouve un peu dans un rôle secondaire à entrer en jeu pour certains matchs et certaines, on va dire, choses spécifiques dans des contextes spécifiques, on va dire. Pourquoi pas essayer de le garder une saison de plus? Après, la question, c'est que si tu le vends, déjà qu'en nombre, t'es un petit peu limité parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de Cavani. Il est blessé et tu te retrouves avec Choupo-Moting qui est juste derrière et qui est titulaire. Le truc, c'est que je pense que le PSG ne va pas vendre Cavani cet été parce que ça lui ouvrirait un nouveau chantier alors qu'ils en ont déjà quand même pas mal à combler jusque-là. Donc, je ne pense pas qu'ils fassent ce choix-là parce qu'ils ont déjà énormément de boulot et on a vu cette saison tous les problèmes qu'ils ont eu pour déjà accomplir les chantiers qu'ils avaient à faire et qu'ils n'ont pas encore totalement remplis. Donc je suis pas sûr qu'ils s'en ajoutent un dès la saison prochaine.
Ils auraient dû le vendre quand ils ont acheté Neymar et Mbappé. Ça aurait été le bon timing pour remodeler ton équipe et notamment ton fonctionnement offensif.
Mais donc du coup, la mauvaise construction d'effectifs du PSG fait que Mbappé sera peut-être pas utilisé à son meilleur poste l'année prochaine parce que du coup, tu pourras...
Sauf si tard.
Oui. Bon, après, il a montré qu'il n'était pas non plus mauvais quand il jouait sur un côté. C'est pas dramatique, c'est dommage parce que tu vois qu'il peut produire plus que l'ailier classique. Mais ça peut retarder d'un ou deux ans sa son évolution finale.
C'est drôle, on a l'impression que tu parles d'un Pokémon. Alors,
j'ai failli dire comme Freezer dans Dragon Ball, mais je sais qu'aucun de vous deux n'a les références Dragon Ball. Donc,
Absolument pas.
Voilà.
Florent. Je te laisse clore tes trois takes avec ton troisième, toujours en Ligue 1.
Toujours en Ligue 1, et c'est le plus épicé, puisque ça va amener le Stade de Reims en Coupe d'Europe ou pas loin. Ça va dépendre de la qualification ou pas du PSG pour la finale de la Coupe de France et la victoire en Coupe de France, tout simplement, des Parisiens. Alors pourquoi? Parce que quand je regarde simplement le classement à l'heure actuelle, Reims a un match en moins par rapport à Marseille, à égalité avec Saint-Etienne, à égalité de points, ils sont à 2 points de l'OM, ils ont 2 points d'avance sur Nîmes, derrière il y a Montpellier et Rennes qui sont un peu en retrait mais qui vont peut-être se mêler à cette lutte. Et en fait, quand tu regardes ces 5-6 équipes là, tu te dis qui pratique le meilleur jeu aujourd'hui, quelle équipe est la plus cohérente. Et ben, de mon point de vue, c'est le Stade de Reims. C'est une équipe qui perd très peu, ils sont sur une série de 13 matchs sans défaite, il me semble. 13 ou 14 si on ajoute
c'est un peu le Valence de la Ligue 1 hein, quand tu fais le bilan, il y a beaucoup de matchs nuls et peu de défaites et une production offensive moyenne mais une défense très solide.
Ils ont je crois depuis, si on prend depuis janvier, il me semble qu'ils ont la deuxième meilleure défense de Ligue 1 en termes d'expected goals derrière le PSG. Je me demande même si c'est pas sur la saison en
leur
fait,
dernière défaite c'est le 5 décembre Florent contre Toulouse à domicile.
Ouais, ça remonte à loin, ils ont pas perdu en 2019. Ils ont le petit joueur en grosse réussite, c'est Rémi Houdin, ou qui même, je ne sais même pas si elle est grosse sa réussite, mais...
Il est à 9 buts pour 7-21 d'expected.
Non, il est en réussite, mais sans plus. C'est un peu lui qui permet à Reims de faire un peu mieux en XG par rapport à ce qui est annoncé. Après, c'est vrai qu'en termes de production offensive, ce n'est pas une équipe très expansive, mais le fait qu'elle encaisse très peu, elle encaisse assez peu souvent le premier but, ça les met souvent dans des bonnes situations ensuite pour contrer et faire la différence. Et c'est vrai que quand tu vois les poursuivants, Saint-Etienne, j'arrive pas à être convaincu par cette équipe à chaque fois que je les vois jouer cette saison. Marseille, bon, j'imagine qu'ils ont laissé filer le podium et qu'ils finiront malgré tout quatrième. Mais c'est vrai que derrière, Nice, c'est difficile. Ils ont eu une très bonne période parce que Benitez, notamment, a fait, est en train de faire une très grande saison. Mais offensivement, il leur manque toujours ce buteur qu'ils n'ont pas eu en début de saison, malgré Balotelli, puisque Balotelli ne voulait plus jouer pour eux, et qu'ils n'ont pas évidemment retrouvé ensuite. Et c'est vrai que derrière Montpellier, Rennes, c'est capable de faire de très bonnes perfs, mais c'est aussi capable de passer à côté, de lâcher des points à gauche, à droite. Et aujourd'hui, ces deux équipes-là sont plus forcément dans une situation où ils peuvent lâcher des points s'ils veulent viser le top 5 et l'Europe. Donc je me dis que pourquoi pas voir le Stade de Reims finir à cette cinquième place, pour toutes les raisons invoquées, et aussi leur solidité et leur cohérence globale sur le plan collectif.
Bah, tu vois, sur Understat, il y a une stat qu'on utilise peu, mais c'est le temps qui passe en étant mené ou en menant au score. Ils sont 820 minutes en menant au score, ils n'ont que 400 minutes en étant menés au score.
Ouais.
Le reste étant à égalité. Et sur ces 1500 minutes qui restent à égalité, ils ont une production offensive de 17-28 contre 11-42 des Swiss Eagles concédés. Donc tu vois qu'ils sont plutôt bien quand il y a égalité ou quand ils mènent au score. Par contre, une fois qu'ils sont en dessous, ils ont beaucoup de mal à revenir. C'est logique quand une équipe qui défend bien, mais qui s'appuie sur une production offensive assez mesurée. Mais voilà, c'est une équipe qui doit avoir des bonnes entames répétées et en tout cas bien saisir les matchs pour être aussi bien sur ces stats-là.
Et du coup, en termes de calendrier, juste pour terminer, bon, ils vont jouer Strasbourg là. Ils ont un match en retard à rattraper, un match qu'ils peuvent aller gagner. D'autant plus que c'est une équipe qui se déplace très bien sur la saison. Ensuite, ils vont recevoir Lille dimanche, mais ensuite t'auras déplacement à Monaco. Caen est allé gagner, donc pourquoi pas Reims. Ils reçoivent Saint-Etienne dans un match face à un adversaire direct, et après ça va à Angers, ça reçoit Nîmes, ça va à Caen, qui sera peut-être déjà relégué à ce moment-là. Et ensuite il y a un match à Bordeaux, et pour finir un match contre Paris. Paris sera peut-être un peu démobilisé.
Ouais, après, en général, le dernier match au Parc,
c'est un déplacement, ouais, peut-être qu'ils pourront profiter du fait d'affronter les champions lors de la dernière journée pour peut-être aller chercher les points qui leur manquent, pour aller chercher cette cinquième place.
Et puis, il faut quand même souligner aussi, je trouve, le fait qu'au Mercato, ils aient voulu faire légèrement évoluer le projet de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais le fait de prendre Zenelli, qui est un joueur très créatif, qui brillait aux Pays-Bas. Alors déjà, gros coup d'avoir réussi à prendre un joueur qui mettait énormément de passes décisives à Heerenveen aux Pays-Bas. Parce que même si la Ligue 1 est quand même plus cotée que l'Eredivisie, Heerenveen-Reims, c'est pas forcément une énorme progression. Donc du coup, ces joueurs-là peuvent parfois chercher des marches plus grandes. Alors je sais pas si c'est le fait de le prendre qui du coup fait que tu vas jouer de manière plus offensive, ou alors si, en se disant ok, défensivement on est bien en place, mais on pourrait faire plus offensivement comme l'année dernière où ça marquait énormément, où ça éclatait tout le monde en Ligue 2, et du coup que tu cibles un profil un peu plus créatif. Mais ça fait partie des... Moi, j'ai pas énormément d'exemples en tête d'équipes qui, en plus étant promues avec un effectif quand même relativement limité et qui du coup s'appuie plutôt sur un truc assez conservateur, qui en cours de saison vont vers l'offensive et avec succès et se mettent à marquer beaucoup plus de buts que dans la première phase en emballant le jeu et en étant finalement une équipe très plaisante à regarder jouer, alors qu'en début de saison il y avait quand même beaucoup de 0-0 où il se passait à peu près rien sur le terrain.
Ouais, Zenelli, là, puisque t'en parles, quand on regarde ses stats avancées, donc il a joué que 7 matchs depuis le début de la saison, il a à peine 400 minutes de jeu, mais il est déjà si on ajoute XG plus expected assist par 90, il est à 0,86 donc par 90, ce qui est assez monstrueux, avec XG en 0,41 et 0,35 en assist. Donc c'est vrai que il fait une arrivée tonitruante dans le championnat français.
Qu'en plus de buts, là, ça sera peut-être un petit peu tôt pour qu'il soit vendu, à la fois prix d'achat, le fait que l'échantillon soit réduit, vendre un joueur quelques mois après l'avoir acheté, c'est un petit peu tôt. Mais je pense que très clairement, à la fois dans sa qualité de passe, mais aussi dans sa qualité de dribble, parce qu'elle a des inspirations assez jolies dans les petits espaces, dans les petits périmètres qui font la différence en Ligue 1, où parfois les blocs regroupés font que la bonne passe ou le bon dribble est beaucoup plus difficile à trouver, parce que il n'y a pas de déséquilibre créé collectivement. Je pense qu'on peut revoir ce joueur beaucoup plus haut et dans des équipes type Séville ou autre. Je pense que dans l'entrejeu ou pour mener le jeu, ça peut être assez intéressant comme joueur, et donc belle pioche.
Sur Actifi, juste, je disais 0,86, je me suis enflammé, c'est 0,76. Mais pour donner une idée, en Ligue 1, ça le place entre Memphis Depay et Nabil Fekir, en termes de production.
C'est pas mal.
Alors qu'il joue à Reims aussi.
Ouais, après, l'échantillon est faible, il faudra voir si sur la durée, ça se confirme.
Mais il avait quand même 9 passes décisives aux Pays-Bas, donc...
Oui, ça sort pas de nulle part, oui.
Ça sort pas de nulle part. Et d'ailleurs, en parlant de Memphis... Stat improbable. Alors, je sais pas si ça a changé après son match, mais en tout cas, enfin, sur la fin du week-end, mais j'avais vu que Memphis était le premier en passe-clé en Europe. Donc, c'est un joueur
oui,
qui.
C'est aussi parce qu'il tire les coups de pierre arrêtés à Lyon et que, du coup, ça donne pas mal. Un peu comme Payet, il y a de manière répétée à Marseille, vu qu'il tire tous les coups de pierre arrêtés.
Di Maria aussi avait un chiffre assez élevé avant la période.
Après, c'est une qualité. Hein, tu sais tirer les coups de pierre arrêtés, tant mieux pour toi.
Donc, oui, mais je veux dire, t'as aussi le côté. Enfin, c'est pas le seul joueur en Europe à tirer les coups de pierre arrêtés, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, ça faut pas en faire dire ce que cette stat ne dit pas. Hein. Tu peux faire des passes à des joueurs qui tirent de 30 mètres. Hein. Mais je trouve ça assez intéressant, malgré tout, qu'il soit si haut dans la stat et paradoxalement qu'il soit si bas en passe décisive. Est-ce que ça dit quelque chose de lui et du type de passe qu'il fait, ou alors est-ce que ça dit quelque chose de ses partenaires et de l'animation?
On en revient au syndrome Maurice Belet à Bordeaux, qui avait sans doute des stats folles d'expected assist et qui pourtant dans ses lignes de stats brutes ça n'a pas grand chose.
Plombé par des partenaires moyens. Mon dernier pari, alors je mets beaucoup d'épices puisque je combine deux choses.
Ça picote.
Ça sera Nicolas Pépé au Bayern et le Bayern champion. Donc c'est-à-dire Nicolas Pépé viendra renforcer le champion d'Allemagne qui sera le Bayern. Parce que en fait les deux m'intéressaient, mais les deux pris séparément n'étaient pas assez pas évident, mais enfin c'est pas le pari du siècle. Alors déjà, pourquoi Pépé? Alors déjà, c'est pas une info que j'ai, même si je bosse sur le LOSC.
Attention, info Voix du Nord, c'est sorti, Christophe, t'as été cité par l'équipe.fr.
En plus, je bosse pas pour la Voix du Nord, donc du coup, je sais même pas si ça représenterait la Voix du Nord ou d'autres médias. Mais en tout cas, le Bayern a un intérêt pour Pépé, ça c'est évident, même si le côté offre à 80 millions ou autre, faut se méfier. Mais n'empêche que c'est le bruit qui court que Pépé serait pas forcément contre. Et puis si tu regardes la manière dont il joue et les besoins du Bayern et son prix d'achat, sache que, enfin, son prix de vente, je pense que le prix où il va partir, ça va être, à mon avis, autour des entre 60 et 80. Et si tu enlèves les clubs chinois, il y a pas beaucoup de clubs en Europe qui peuvent s'offrir ce prix-là, enfin un joueur à ce prix-là. Et parmi ces clubs-là qui sont donc assez peu nombreux, celui qui a le plus besoin de renfort sur l'aile, c'est le Bayern, puisque, enfin là, si tu regardes même le match de ce week-end, les deux entrants, donc déjà de base, donc t'as Lewandowski en pointe sur les côtés, c'était Kingsley Coman et Thomas Müller, qui est pas vraiment sur le côté, mais voilà. Et les deux entrants, c'est Alphonso Davies, le jeune Canadien qui a un pari sur l'avenir, mais qui actuellement, voilà, c'est un 2000, il n'est pas encore forcément au niveau d'un tel club. Et l'autre entrant, c'est Ribéry, qui est sur le départ. Donc du coup, tu peux te dire que finalement, l'avenir est pas forcément... L'avenir est peut-être assuré d'ici 5 ans avec un joueur comme Davies, par exemple, mais si tu veux être efficace dès la saison prochaine, si tu n'as plus ni Ribéry ni Robben, est-ce que... Tu peux aller à la guerre avec juste Coman, Müller, surtout Müller côté droit, ça me paraît compliqué.
Et Gnabry quand même.
Et Gnabry, oui, c'est vrai que j'oubliais Gnabry qui n'était pas là sur ce match-là, qui peut aussi dépanner en pointe. Mais j'ai quand même, traditionnellement, le Bayern a toujours eu pas mal 3-4 ailiers très compétents. Et là, pour le coup, le fait de perdre a priori Robben et Ribéry sur l'intersaison fait que tu devras te renforcer. Et Pépé à la fois pour ses stats et pour ce qu'il amène en plus sur le côté Bundesliga, je pense qu'avec les espaces dont il disposera, il peut se régaler. Donc pour moi, c'est le truc le plus évident. En plus, le Bayern a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Ils l'ont dit ouvertement. Ils ont commencé à le faire avec Lucas Hernandez. Donc je pense que ça continuera parce que c'est le chantier principal, les ailes, et ça me paraît être le meilleur candidat disponible sur le marché. Et pour compléter le truc, Bayern champion. Alors même s'il y a eu un match nul ce week-end. D'ailleurs, en fait, je m'appuyais sur un match, mais c'était même pas sur celui-là que je pensais. Je suis en train de regarder le 6-0 de la semaine d'avant.
Match contre Fribourg où ils ont énormément croqué. Hein.
Ouais, ils prennent un but. Rapide, un peu bête, et ensuite il passe pas loin d'en prendre un deuxième. D'ailleurs, le multiplex de beIN Sport faisait un peu n'importe quoi, montrait les mauvais matchs, et donc tu te dis, ah tiens, ça va être mauvaise journée. Finalement, il renverse le truc, Lewandowski met un joli but, une jolie volée, ensuite ça pousse et ça marque pas. N'empêche que si tu regardes à la fois les scores, les stats avancées, la maîtrise, à la fois le côté visuel qui est confirmé par les statistiques, Ça fait vraiment accident de parcours parce que le Bayern est largement au-dessus de tous ses adversaires depuis quelques semaines. Et même si là, le Bayern a perdu 2 points sur Dortmund qui a gagné avec 2 buts dans les arrêts de jeu, dont un coup franc, le gardien est pas exempt de tout reproche. Sinon, Dortmund a quand même très nettement réduit sa capacité à se créer des occasions dans le jeu. C'est quand même très très poussif et on repart sur ce qu'il y avait un peu à l'automne avec des matchs pas forcément maîtrisés, gagnés dans les derniers instants. Je pense pas que ce soit forcément viable sur toute la saison, donc j'imagine Dortmund perdre encore des points.
Et surtout, ils vont au Bayern là.
Et surtout, voilà, le Bayern a son destin en main puisqu'il y a le classiqueur là ce samedi à 15h30, 18h30 pardon. Donc le fait que le Bayern gagne ce match-là, le Bayern passerait devant avec un point d'avance. Alors mon cœur fait que, enfin, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de variété parce que ce championnat est parfois difficile à suivre quand le Bayern écrase tout. Donc que Favre puisse être champion, cette équipe de Dortmund qui a amené un certain vent de fraîcheur et de folie et qui profite de la mauvaise saison du Bayern, je trouve que ça serait assez sympa. Malheureusement, je pense que la sous-performance de Lewandowski en championnat ne peut pas durer éternellement et que le fait que là le Bayern ait vraiment trouvé une certaine assise et une meilleure gestion tant fort tant faible fait que, un peu comme City, je pense que le Bayern va gagner ses 7 derniers matchs et être champion, d'autant que je ne vois pas Dortmund capable, ouais. Bon. Capable de suivre le rythme.
Par contre, attention, le Bayern joue lors des 2 dernières journées, va à Leipzig et reçoit Francfort. Donc ça peut... être des matchs compliqués parce que les deux équipes jouent les 4 premières places. Alors de son côté, Dortmund va jouer Schalke, Werder Bremen et Gladbach comme grosse équipe d'ici à la fin de la saison.
Gladbach qui est en perdition complète. Hein. Ouais. C'est, pour t'as raison. Après, t'as une variable, c'est que un Leipzig pourrait être déjà 3e au moment de ce match-là. Oui. Là, il y a 3 points de marge sur Francfort, 5 points sur Gladbach. Sur 3 ou 4, ça ne change pas grand-chose. Donc du coup, même si historiquement, c'est toujours des matchs assez, assez engagés, tu pourrais te dire que bon, Leipzig pourrait être un peu moins motivé par ce match-là. Et deuxièmement, tu as la variable Francfort en Europa League. Qu'est-ce qui se passe si tu as eu la fatigue de la demi-finale ou une finale à jouer ou autre?
Oui.
Ça peut... Alors, ils joueront quand même le match à fond parce que forcément, tu as la perspective d'aller en Ligue des Champions. N'empêche que tu pourrais ne pas être à 100% même si cette équipe fait une super saison.
Très bien.
Vous n'avez rien à rajouter?
Non.
J'ai l'impression d'être très définitif dans mes avis et de ne pas
suscité la... T'es tellement convaincant qu'on peut difficilement te contredire, Christophe. Hein, c'est ça ton problème. C'est un peu ton côté divin hein, qui parle de ce moment-là.
Tu pourrais pas faire First Take et toutes les émissions américaines où non, ça rebondit. Au-delà du fait de faire des interventions de 5 minutes au lieu de 25 secondes, le fait est que je ne suscite pas beaucoup le débat dans cette émission. Je suis assez...
Non, mais Stéphane Smith se coucherait devant toi.
Alors là, Raphaël, c'est à toi de clore tout ça, mais j'ai une petite interrogation, je ne comprends pas ton dernier take.
Oui, j'avais envie de provoquer une guerre dans Vue du Banc, une crise. Alors j'ai vu que grâce à notre ami qui tient nos comptes, nos paris, nos réussites, nos échecs, surtout nos échecs, tu étais passé devant moi récemment. Sur le.
Oui, j'ai fait 2 sur 2 là ce week-end.
Tu n'es plus le cancre de Vue du Banc en termes de paris. Et du coup, mon dernier take, le 9e take de cette émission, c'est que je vais repasser devant toi d'ici la fin de la saison. Ce qui veut dire qu'il faut que je parie, donc il faut que j'arrête d'animer, il faut que j'arrête de me dégonfler, de me défier. Donc je vais le faire ce week-end déjà. Et que je pense que je vais passer devant toi parce que je vais me concentrer, je vais m'appliquer. Le football va enfin me sourire et puis les choses vont revenir à la normale. Alors je n'ambitionne pas de passer devant Florent parce que la tenue était vraiment le spécialiste du pari. Hein, c'est lui qui nous permet un peu de rester crédible aux yeux de PMU, mais de notre côté, Christophe, il y a une vraie bagarre qui va s'enclencher. Je pense que t'es pas prêt pour l'intensité de ce qui va arriver.
Plutôt t'es pas prêt pour l'octogone.
Voilà. En plus, il y a des gens qui nous menacent sur Twitter dans les DM, donc ça me chauffe un peu et je vais me venger sur toi. Je vais te péter l'arcade comme la dernière fois. Et tu vas voir que je vais repasser devant toi au pari. Alors, je suis pas sûr que mes paris que là je vais proposer ce week-end là vont être, enfin ce week-end, cette semaine du coup, vont être efficaces. Mais s'ils ne marchent pas, je tenterai des choses folles d'ici la fin de la saison. Voilà ma promesse, voilà mon take.
J'ai rarement vu une argumentation aussi flinguée quand même. Hein, je tiens à
le dire. Ah, ça tient que sur de la
foi. Le football va enfin me sourire. C'est de la foi.
Non, parce que jusque-là, les paris, je les prenais un peu à la légère parce qu'il y avait toujours un mec qui était derrière moi et du coup, j'étais un peu sauvé par. Par ton incompétence, mais je dois reconnaître que tu t'es amélioré ces derniers temps et du coup tu arrives maintenant à gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà, il va falloir que je me sorte un peu les doigts.
Ouais, et donc ta projection, c'est de te dire que bon, Tu vas faire mieux, mais bon, cette semaine peut-être pas. Mais
non,
si
non,
pas
non,
mieux,
parce que je te laisse un peu d'avance, parce que je suis. Tu vois, toi, t'es plutôt un dragster et moi, je suis plutôt un diesel. Donc, je vais te rattraper. Et si je te rattrape pas, bah écoute, mon take sera invalide. Mais si déjà un des autres takes qu'on a donné, notamment Liverpool, passe, j'accepterai volontiers d'être dernier en Paris. De toute façon, c'est ce qui m'attendait. J'ai combien de semaines? On a quoi? Il nous reste 2 mois là de podcast, Florent? Ouais, 2 mois.
Ouais, c'est ça, avril-mai. Ouais.
Donc il me reste 2 mois pour te rattraper, te devancer et remettre les choses dans l'ordre.
Ouais, déjà que t'es dernier en charisme, si en plus t'es dernier en charisme. Florent, t'as quelque chose à dire sur cet avis ou...
Mais lui, il s'en fout, il évolue dans notre sphère, ça le concerne pas, c'est des villas.
Ouais, je suis un peu le PSG en Ligue 1, quoi.
Voilà. Et nous, on est Caen et Dijon, quoi.
Ouais. D'accord. Bon, bah. Je suis assez déçu de la tournure que prend cette émission. Vous laissez, généralement, c'est, on fait, il y a un peu des brainstorming, tout ça, ça infuse, il y a des espaces de coworking. Vous mettez les deux ensemble, Raphaël, ça ne te tire pas vers le haut.
Mais non, mais on a très bien mangé ce midi et du coup, c'est un peu la sieste post-repas, là. Donc, c'est compliqué.
Le problème étant que les gens vont nous écouter peut-être le matin à 8h dans le métro et qu'ils ne seront pas du tout dans cet état d'esprit de digestion.
Oui, bah écoute, ils n'ont qu'à prendre un petit déjeuner, hein.
Ok, on va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr, je n'en peux plus. Pas d'introduction, on fait ça depuis tout à l'heure, donc voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Florent qui a fait un 0 sur 2 ce week-end, voilà, oui. C'est placé. Ton premier pari, après, c'est sur Lyon-Dijon.
Après t'avoir cédé City à la mi-temps.
Oui, parce que voilà, il faut qu'on révèle quand même le secret de tes réussites, Christophe, c'est que tu voles les meilleures idées de Florent.
Il avait qu'à se l'approprier après, s'il n'est pas suffisamment
charismatique,
accroché. Non, il est quand même plus charismatique que toi. Je ne sais pas ce que tu
penses. Putain, tu ne me donneras rien. Hein.
Absolument pas. Bon, alors Lyon-Dijon, Florent, vas-y.
Ouais, bah Lyon-Dijon, est-ce que c'est suffisant, Lyon-Dijon
Bah, ça dépend, quel est ton pari?
Bah, Lyon qui s'impose par au moins 2 buts d'écart, donc Lyon avec un handicap de moins 2. Quand tu vois les dernières sorties de Dijon, de toute façon, certes, ils n'ont pas pris de volée, ils n'en prennent qu'un contre Lille, mais c'est un miracle qu'ils n'en prennent qu'un seul. Bon, ils en prennent 4 contre le PSG, un but contre Guingamp, défaite 1-0, défaite 1-0 contre Nice. Mais là, c'est vrai qu'en termes d'armada offensive, on est à un autre niveau que Guingamp et Nice. Et
boosté par la prolongation de Genesio, en plus.
En plus, c'est vrai. Boosté peut-être par leur qualification pour la finale de Coupe de France, même si ça, je suis un peu moins convaincu pour l'instant. On verra comment ça se passe. Mais bref, Lyon-Dijon, bah Lyon qui s'impose, et je pense avec un gros score, un petit peu comme le score qu'ils avaient infligé à Toulouse il y a quelques semaines, où ils s'imposent 5-1, il me semble, c'est ça. Et voilà, pas la peine forcément d'argumenter. Lyon se sort très bien de son match à Rennes. Genesio va prolonger, tout se passe bien à Lyon, du coup ils vont aller fêter ça avec une belle victoire contre Dijon avec un gros score et peut-être ensuite la semaine suivante aller perdre des points à Nantes et à Angers et se remettre en danger. Ça serait très lyonnais, ça,
une fois la prolongation faite
tu peux te relâcher après.
Mais un peu qu'on adore les supporters à nouveau.
À noter quand même côté Dijonais la performance de Samaritano qui dans une équipe qui est quand même en galère réussit à être expulsé avec un deuxième jaune sur simulation à 0-0 face à une équipe de Nice globalement inoffensive comme très souvent qui va mettre le 1-0 en plus par Lesmelou l'ancien du camp adverse, donc niveau lose généralement quand ça commence à tourner comme ça c'est pas top top quoi, parce que moi j'ai entendu rouge, je me suis dit ça y est, excès d'engagement, Comboiré les a remontés, le côté guerrier tout ça, il y en a encore un, il y a Yambéré qui est parti tuer quelqu'un ou autre, et non pas du tout, c'est une simulation de Samaritano. Donc voilà, quand tu ne peux pas tirer ton équipe vers le haut, au moins ne pas la tirer vers le bas, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant pour Samaritano. Je ne sais plus quoi dire. Florent, City Cardiff, ton deuxième pari.
Oui, d'ailleurs j'aurais pu commencer par celui-là puisque c'est dès mercredi en fait, puisque la première ligue nous offre aussi une journée. Je crois qu'il y a une journée en Italie, une journée en première ligue et une journée en Espagne cette semaine, donc du football tous les soirs pour ceux qui en veulent. C'est le pari que tu m'as pris la semaine dernière. City qui mène au moins de 2 buts à la mi-temps. Donc City moins 1 avec le handicap. Face à Cardiff, bah, ils affrontaient Fulham. Comme prévu, ils ont démarré assez fort. Et finalement, ils ont contrôlé après avoir mis le 2-0. Mais je pense que contre Cardiff, ils vont faire à peu près le même match. même si Cardiff défend un peu mieux que Fulham, c'est quand même très individuel. Et avec le nombre de joueurs côté City qui sont capables de faire des différences justement en contre un, je pense qu'ils devraient débloquer la situation rapidement. Et le fait de mener en plus 2-0 dès la mi-temps, ça pourra permettre à Guardiola de faire tourner, de préparer déjà le match de Ligue des Champions qui arrivera dans la semaine suivante.
Cardiff d'ailleurs qui n'a pas été chanceux là face à Chelsea. Ouais. Chelsea qui était très mauvais, Cardiff qui mène longtemps au score, qui prend un but, qui est hors jeu d'un bon mètre. Alors je ne sais pas si ça va, si soit l'équipe va se dire ah bon ok on a perdu mais on a quelque chose sur lequel bâtir parce qu'on a quand même bien embêté Chelsea même si on repart sans points, ou si au contraire ça va être le coup de massue, le mauvais sort, etc. Il n'y a rien qui tourne en faveur, là Warnock était... a pété un plomb complètement à la fin du match, donc je sais pas la réaction qu'il peut y avoir quelques jours plus tard.
Petit point Warnock avec toi Christophe, parce que le petit point capillaire, parce que c'est un mal qui nous afflige tous les trois, est-ce que ce sont les vrais cheveux ou pas de Neil Warnock?
Je lui souhaite pas, mais...
Non, parce que quand j'ai vu son interview là où il était très énervé après le match, notamment contre tout le monde, contre Sarri, contre tout le monde, t'as vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'oiseau qui est posé sur sa tête, et j'ai l'impression que c'est Nicolas Cage dans 20 ans. Et je comprends pas vraiment. En fait, on dirait des vrais cheveux, mais posés de façon à faire faux cheveux. Et j'ai un peu peur que ce soit notre avenir aussi. Donc voilà, c'est juste ce que j'ai remarqué en fin de match, parce que Cardiff, autant dire, Christophe, on a vu beaucoup d'équipes de football ces dernières années, notamment depuis qu'on fait vue du banc. Il y a eu le Benevento première partie de saison qui était très nul. Là, Cardiff, cette saison, c'est un des trucs les pires qu'on ait vu depuis pas mal de temps, quand même.
Après, ça a parfois le mérite d'être cohérent, là où Fulham n'a pas ce mérite-là. Ah, parce que le Fulham de Scott Parker en ce moment, c'est quand même un truc assez conceptuel.
Ouais, mais enfin, t'es quand même dans un. Bon, après, ça va être le truc de. T'es dans un championnat qui a des moyens, tu peux recruter des joueurs de très bon niveau à l'étranger et tu finis par jouer comme Cardiff. Toujours un moment un peu triste quand tu vois ces équipes jouer. Il suffit de lire l'effectif pour. Tu vois, Junior Roylett, quand un de tes cadres, c'est Junior Roylett. Ou Sol Bamba, qui.
Qui est une camarade. Personne très imposante. Hein,
oui, alors ça, respect, c'est un peu le The Rock du football. Mais. Camarasa, tu te demandes ce qu'il fout dans ce pétrin.
Mais heureusement qu'il est là pour eux, parce que. C'est vrai que pour lui, ça doit pas être très gai, mais ça leur fait un peu de football. Le pire, c'est que Camarasa, c'est un bon joueur, mais en Liga, il sortait pas forcément du lot. Mais à Cardiff, t'as l'impression que
c'est
Iniesta.
C'est Valerone, oui. Enfin.
Mais bon, après Cardiff jouait déjà comme ça et montait comme ça, donc c'est même pas le côté. Au moins on savait pourquoi.
Heureusement, les leaders de deuxième division anglaise cette saison sont un peu plus sympathiques.
Voilà, c'est ça. Raphaël, tant que tu as la parole, je te la laisse avec deux paris sur la Ligue 1.
Oui, le premier c'est sur le match de Montpellier qui joue contre Reims, si je ne m'abuse.
Non, contre Guingamp.
Ah, pardon, j'ai mélangé mes deux paris, Montpellier-Guingamp. Alors, Montpellier-Guingamp, donc là, je suis parti sur un pari assez classique avec Montpellier. J'aurais pu partir sur le match nul, parce que Guingamp aussi a du mal à marquer des buts, mais je vais repartir sur la force défensive de Montpellier, qui se voit pas forcément ces derniers temps, parce qu'ils ont pris 3 buts contre Lyon, 2 contre Angers, 1 contre Bordeaux, ils ont pris pas mal de buts récemment. Mais à domicile, en général, ils arrivent quand même à être solides, en témoigne des performances, notamment contre des équipes comme Caen, donc des équipes du même niveau que Guingamp, contre Lyon, quand ils ont reçu Lyon, contre Lille, quand ils ont reçu Lille, contre Marseille, par exemple, à domicile. Là, je peux remonter la saison Bordeaux, s'ils avaient gagné 2-0. Donc là, je pars sur un match à 0 ou 1 but. Voilà, sachant que Guingamp est une équipe aussi en difficulté offensive, je crois que la cote est à 2,50.
Oui, c'est bien ça.
Voilà, donc je pars sur un match entre 0 et 1 but pour que Montpellier se remette dans la dynamique d'Arzakarian, où on est sur une équipe solide qui arrive à se projeter. Alors ça a un peu changé avec les recrutements cette année de Mollet notamment, qui a apporté un peu plus de qualité technique et l'intégration de joueurs comme Lannes qui joue plus que les saisons précédentes. Mais le 0 ou un but à 2,50, vu que j'ai du retard à combler par rapport à toi, il me faut des cotes un peu courageuses et j'avais tendance à frôler le 2 à chaque fois. Là, je monte un peu la mise.
Après, 2,50, c'est une certaine notion du courage.
Oui. Bah, il faut se rappeler que toi, tu avais tenté des cotes à 30 pendant la Coupe du Monde qui avait failli passer.
C'était Lukaku. Ouais.
Une sur Lukaku hein, qui aurait pu te propulser en première place, mais non.
En parlant de Guingamp, tu as vu la finale de Coupe de Ligue ou pas?
Non, j'ai pas eu ce bonheur, non.
Florent?
Non, mieux. Non, je ne l'ai pas vu non plus.
Mais il a vu le même match avec Bordeaux.
Ouais, j'ai vu le même match le lendemain.
Ouais. Ouais, bah heureusement, il a fait 30 minutes de moi parce que j'ai passé une mauvaise soirée.
Tu préfères avoir la coupe de cheveux de Neil Warnock ou revoir le match de Strasbourg-Guingamp pendant des siècles?
Pendant des siècles?
Genre, bah, enfin, au moins une fois par semaine.
Calmant, ou...
Non, mais au moins une fois par semaine jusqu'à ta mort.
Neil Warnock, quand même, parce que ça peut s'améliorer.
Oui, et puis ça ressemble un peu déjà à ça, ce que t'as sur le crâne. Donc.
D'accord, ok.
Il avait préparé ça juste pour.
Je me vengeais de ses attaques répétées sur le charisme.
C'est une blague à deux bandes, c'est une espèce de alley-oop humoristique. Ton deuxième pari, Strasbourg-Reims.
Strasbourg-Reims, oui, Strasbourg-Reims. Là, cette fois, je pars sur un match offensif, parce que Strasbourg est une équipe offensive. Et Reims, comme on l'a dit, a changé en cette deuxième partie de saison. Je pars sur un match où il y aura plus de 2,5 buts, donc au moins 3 buts. C'est à 2,30, là, si je ne m'abuse, Christophe.
Oui, je ne t'abuse.
Strasbourg-Reims, donc Strasbourg qui est une équipe qui a tendance à marquer des buts. Là, récemment, contre Nîmes, ils en mettent 2. Contre Lyon, ils en mettent 2. Contre Saint-Etienne, ils en ont mis 1. Angers, ils en ont mis 1. Ils en ont mis 5 contre Monaco il y a quelques semaines de ça. Voilà, donc un match à au moins 3 buts à domicile contre Strasbourg et Reims, deux équipes qui visent l'Europe d'ailleurs. Bon, Strasbourg maintenant est déjà dedans, mais ils peuvent viser des places d'honneur et on sait que ça rapporte 2-3 millions à chaque fois que tu gagnes une place. Donc entre Strasbourg et Reims, un match à au moins 3 buts, c'est à 2,30. Voilà, c'est mon autre pari Ligue 1 et celui qui me permettra de te devancer.
Et donc pour Strasbourg, on fera également l'impasse sur cette finale de
Coupe
de la Ligue.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui nous demandaient sur Twitter, mais de toute façon, ça a fait un peu loin. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient regardé le match, finalement, un samedi soir comme ça.
Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aimeraient qu'on leur rappelle.
Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, en fait, ont besoin de la Coupe de la Ligue dans leur vie. Et il faudra se poser la question un jour de l'intérêt de cette compétition, voir si on ne peut pas la rendre un peu plus sexy, réfléchir à son fonctionnement. Parce que là, chaque année, même les chaînes, maintenant, ne se battent plus pour les droits.
Il n'y a personne, il n'y a pas de diffuseur pour l'année prochaine.
Ouais, donc voilà. Mais bon, tant mieux pour Strasbourg, hein. C'est une équipe qui méritait quelque chose, et puis pour Loré qui fait du bon travail, mais c'est vrai que sinon cette compète, chaque année on s'en fout un peu plus.
Après pour eux, le plus dur va commencer, parce qu'il va falloir préparer une saison qui va démarrer mi-juillet.
Et oui, c'est vrai que... Ça a déjà mis dans la galère certaines équipes.
Ouais, ben, tant que Bordelais, on l'a vécu en début de saison. Alors c'est très sympa d'avoir... Un petit pré-show, quoi, une saison qui démarre.
Ouais, bah après vous, ça dure jamais longtemps. Quoi. Vous voilà. Au troisième tour.
Mais non, là, on était ah, jusqu'au bout, malgré tout. Mais c'est vrai que 3 tours à passer à partir de mi-juillet, quand t'arrives octobre-novembre, tu commences à tirer la langue, ça commence à être compliqué.
Et à noter, pour cette finale, quand même, juste un mot. Ok, les deux équipes étaient. Enfin, techniquement, c'était très compliqué. Tactiquement, c'était prudent. Mais la pelouse du stade Pierre-Mauroy, que je ne connais que trop bien. Bon, là, j'ai fait l'impasse sur ce match-là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai bien fait. Mais c'était une préoccupation depuis des semaines, en fait, depuis la finale de Coupe Davis. Ça devait être quoi? Ça devait être en octobre, novembre, quelque chose comme ça. La pelouse est à moitié défoncée contre Monaco en dernier match de championnat. C'était totalement ridicule. Les joueurs tombaient tout le temps. Ça a failli provoquer plein de buts parce que des défenseurs centraux glissaient au moment de faire leur relance. Et là, ils ont essayé de faire plein d'aménagements, de changer, je sais pas quoi. Enfin, c'était la mission pour que la pelouse soit au niveau pour quand même une finale de Coupe nationale.
La Ligue des talents s'en fout des pelouses. C'est un peu dommage.
Non, mais voilà, il faut dire ça aussi. Alors, c'est pas forcément notre sujet de podcast ou autre, mais que.
Ça influe quelque part aussi sur le jeu et sur la qualité du jeu proposé.
Ça influe à la fois sur l'aspect visuel, parce que c'est toujours plus beau et t'as toujours plus envie de regarder un match bien filmé avec une belle pelouse. Le succès de la première ligue est aussi dû à ça. Et deuxièmement, comment est-ce que tu veux jouer au foot si la pelouse est grotesque, quoi. Et Loré, d'ailleurs, l'a d'ailleurs dit en réaction. Il a fait oui, c'était pas une belle finale. En même temps, je vous défie d'aller jouer sur la pelouse et vous verrez ce que c'est. C'est pas du tout propice au football. Donc c'est vrai qu'en plus, bon c'est un peu la faute de Lille, un peu la faute de Ligue, un peu la faute de tout le monde, mais ça a vraiment pas aidé à donner une belle image de ces deux équipes et du football, parce que c'était une espèce de champ de patates. Voilà.
Merci, c'est tout. C'était notre point Coupe de la Ligue.
C'était le point Pierre Mauroy. Le stade c'est bien, mais c'est genre l'intéressant c'est la pelouse quand même. Si tu peux mettre plein de gens dans une belle salle, mais que le match se déroule sur une pelouse qui est en fait un truc en terre, une patinoire ou autre, ça n'a pas grand intérêt. Et du coup, le stade ne sera qu'un écrin, mais il n'y aura pas de bijoux à l'intérieur.
Ça m'avait manqué que tu sois à l'animation, Christophe.
Ouais, moi aussi, ça m'avait manqué. Est-ce qu'on a tout dit, messieurs?
Ce qu'il nous reste à dire, Florent, ça va être le calendrier des podcasts à venir, et puis les plateformes où on peut nous écouter, les réseaux sociaux, tout ça.
Bah avant le calendrier, on va quand même dire que si vous voulez suivre nos excellents conseils en Paris pour les matchs de ce week-end et même de cette semaine, n'oubliez pas sur PMU.fr de rentrer le code VDB qui vous offre un free bet de 10 euros en plus de l'offre de bienvenue qui est de 100 euros à l'heure actuelle sur le premier pari ou sur les premiers paris. Enfin bref, je sais plus, vous verrez bien.
Ensuite, on est évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Il y a le site vudubon.fr, il y a SoundCloud aussi, évidemment. Il y a Stitcher. Et voilà, je pense que ça fait déjà pas mal.
Tout ce qu'il faut.
Et ensuite, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec une double dose, vu que la Ligue des Champions est de retour. Donc, il y aura un podcast en début de semaine et un autre après les matchs de Ligue des Champions et ou peut-être de Ligue Europa.
Il va falloir qu'on se mette sur le top 15 des jeunes de Ligue 1 qu'on fait chaque année et qui,
ouais,
et
qui arrivera courant.
Je suis pas sûr que cette année sera très riche.
En nouveau, ouais, pas forcément. Ouais. On sait qu'il y en a qui vont encore y être, notamment Mbappé et Aouar, par exemple, qui sont 98 et toujours éligibles. Mais c'est vrai que cette année, en termes de nouveaux, j'avais déjà fait la recherche de mon côté. Il y a moins de... La Ligue des Talents, il y en a moins, pour l'instant.
Écoutez, si vous avez des suggestions sur Twitter, on écoute.
On en prend déjà.
Bon, et ben c'est ainsi que s'achève cet épisode. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, messieurs, et à bientôt.
Ciao. Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.